Seigneur soit béni. Êtes-vous prêt à la fin de cette réunion ou pendant cette réunion à faire un acte de foi? Eh oui. Alors nous allons partager ce soir ce sujet qui devrait nous préoccuper, cette parole que l'ange Gabriel a adressée à Marie lorsque elle s'est demandé comment elle pourrait avoir un enfant. Luc chapitre 1, verset 37, il y a quelques mots dans ce verset, quelques mots, qui devraient nous bouleverser. Même si on les a lus des centaines de fois, peut-être que ce soir nous devrions comprendre que le Saint-Esprit veut vraiment que nous les approprions. Luc 1, 37. D'ailleurs, je vous pose la question, ce verset est-il descendu dans votre cœur, vraiment? Oh, que se passerait-il si cette parole descendait dans le cœur? Car rien n'est impossible à Dieu. Qui le croit? Rien n'est impossible à Dieu. La vie avec Dieu, c'est comment la vie avec Dieu? Est-ce que c'est toujours évident? Non. Il y a des moments où ça descend. Vous savez, en vélo, l'image en vélo est une très bonne image. Il y a des fois où en vélo, ça descend, un peu de vent dans le dos même. Il y a des fois, ça monte vraiment. Et le vent de face. Oui ou non? La vie, c'est ça. Il y a tous les cas de figure. Mais Dieu veut que nous soyons de véritables disciples. Soyez des disciples. Faites des disciples. Il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de croyants. Il y a beaucoup de religieux. Il y a beaucoup de dénominations. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises. Mais Jésus a dit, faites des disciples. Alors, à quoi reconnaît-on un véritable chrétien? Qu'est-ce que c'est un véritable chrétien? Ah, celui-là, il marche. Il y a 30 ans qu'il marche avec Dieu. Ah, c'est un vrai chrétien. Bien sûr que non. On sait très bien que c'est pas les années qui déterminent la ferveur spirituelle. C'est pas parce que quelqu'un a un ministère pastoral ou un ministère autre que c'est un véritable chrétien. C'est pas parce que quelqu'un prêche que c'est un véritable chrétien. Un véritable chrétien, à quoi se reconnaît-il? Ah, au ministère. Mais non, pas au ministère qu'il a reçu. Un véritable chrétien, il fait confiance. Qu'il ait quelques jours de conversion ou qu'il ait 30 ans de conversion, c'est quelqu'un qui a choisi de vivre le dernier cantique que nous avons chanté. Oui, je marcherai par la foi. J'apprendrai à reconnaître sa voix. Oui, ce soir, tu me parles. Tu me parles, Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Un chrétien, d'ailleurs, Jésus l'a dit, mes brebis, elles connaissent ma voix. Les brebis, elles prennent au sérieux ce que Dieu a dit. Oh, tu me le redis ce soir. Il y a des gens, mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils réentendent une prédication, par exemple, ou le même verset. Oh, ça, mais on le sait déjà. Ce n'est pas sérieux. Dieu peut nous répéter une prédication, la même. Est-ce qu'il pourrait nous la répéter 20 fois de suite? Mais bien sûr, si c'est qu'on a besoin. Comme un enfant à qui on va dire 20 fois, 30 fois de suite, ne mets pas les doigts là. Sinon, tu vas te faire mal. Vous connaissez comment ça marche, les enfants. Mais il n'y a pas que les enfants qui ont besoin de réentendre 50 fois. Un chrétien, il est pétri de reconnaissance. Il entend une parole de Dieu, il dit « Oh, c'est ce que j'avais besoin ». Oh, tu me rappelles ce soir, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu me le rappelles, parce que tu veux me donner du repos. Oh, Seigneur, merci. Il va lire, tiens, on va le lire, la conclusion du Notre Père, dans l'évangile de Matthieu. Vous connaissez la conclusion du Notre Père? Hein? C'est quoi, la conclusion du Notre Père? Oui, c'est ça. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, on le lit. Vous voyez, mes frères, c'est important. Nous avons besoin d'être soucieux de remercier Dieu quand il nous donne ou il nous redonne ou il nous redonne une parole. Mes frères et sœurs, lisez-le avec moi. Matthieu 6, 13. C'est à toi, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, dans le nôtre aussi, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Mes frères et sœurs, est-ce que dans votre cœur vous dites « Oui, c'est vrai, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Pourquoi Jésus, nous en parlions hier avec ma femme, à midi à table, on en parlait avec les enfants, mon fils est venu manger, on parlait de ce verset. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de rendre grâce? Vous avez vu souvent les dire « en grâce ». Rendez continuellement grâce, soyez reconnaissants. Vous avez vu le nombre de fois où ça revient, c'est quand même impressionnant. Le Notre Père, ça commence avec des actions de grâce. Notre Père qui es aux cieux, ça, c'est une action de grâce. Tu es notre Père et d'abord, avant de prier, je te rends grâce de ce que tu es mon Père dans les cieux. C'est une action de grâce. Et quand vous lisez tous les textes qui parlent d'action de grâce, c'est impressionnant. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi? Eh bien parce que ça témoigne un état d'esprit. Vous savez, en fin de compte, que vous ayez quelques jours de conversion, que vous soyez dans la tempête, que la descente, elle soit là ou que ça monte, il y a un état d'esprit. Et ça témoigne un état d'esprit de rendre grâce. De rendre grâce ou de se plaindre, révèle un état d'esprit. Et Dieu le sait. Et ça devrait à nous aussi nous interpeller si nous sommes tout le temps dans la plainte, surtout que c'est écrit, ne vous plaignez pas. Vous avez vu dans le désert comment ils ont été malmenés à cause de ce murmure. Et c'est vrai, comme le don spirituel le disait, quelqu'un qui est tout le temps en train de juger les autres, il se met en vrac. Il se met en vrac avec Dieu, il se met en vrac avec les autres, il se met en vrac avec lui-même, parce que ses prières ne seront pas exaucées. Tandis que lorsqu'on rend grâce, eh bien, Dieu le voit et ça lui plaît. Dieu regarde au cœur. Vous savez que Dieu regarde au cœur. Vous savez, Samuel, même le grand prophète Samuel, quand il a vu Eliab, il a dit c'est lui, c'est sûr c'est lui. Et puis Dieu l'a dit non, c'est pas lui. Car l'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est vrai que nous, c'est un piège dans lequel nous tombons souvent, même Samuel, on a tendance à regarder à l'apparence de quelqu'un. Parce qu'il est habillé comme ça, parce qu'il a tel vocabulaire, parce qu'il a telle réaction quand on lui parle. Ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire. Dieu regarde au cœur et il voit vraiment quand on lui dit merci. Comment on le lui dit? Quand on rend grâce à table. Dieu voit si c'est fait, mais il faut rendre grâce à table. Merci Seigneur pour ce repas, merci Seigneur. Ou si on le fait vraiment de tout son cœur. Dieu voit, il sait ce qu'il y a dans votre vie, dans ma vie. Il sait s'il y a plus de merci que de donne. C'est quoi qu'il y a dans votre vie au fait? Beaucoup de merci ou des donne, et donne-moi, et fais-ci, et fais-ci. C'est quoi qu'il y en a? Soyez honnête, répondez pas aux autres, ne vous levez pas en disant, tu sais, dans ma vie, il y a plus de merci ou plus de donne. Mais soyons honnêtes devant Dieu. Dans ma vie, y a-t-il plus de merci ou des donne? Et ça, Dieu le voit. Dieu le voit. C'est important, mes frères et sœurs. Dieu compte tout. C'est écrit, tu comptes les pas de ma vie errante. Est-ce que c'est écrit? Oui, Dieu nous compte, mais il nous demande aussi de compter. Compte les bienfaits de Dieu. Pourquoi il nous a demandé de compter les bienfaits de Dieu? Parce que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Et Dieu le voit. Si nous voulons être de véritables chrétiens qui verront la grâce de Dieu se manifester, qui verront cette affaire que rien n'est impossible à Dieu, il faut qu'il y ait de la reconnaissance. Dieu le demande, je le prends avec beaucoup de sérieux. Un chrétien qui est toujours mécontent, toujours dans la plainte, toujours qui ronchonne, toujours mécontent, est un chrétien qui passe à côté de quelque chose. Mais écoutez-le bien, mes frères et sœurs. Ça peut arriver une fois, 5 minutes de cafard, ça peut arriver, une mauvaise réaction, un quart d'heure. Ça arrive à tous, ne nous la jouons pas. Mais mes frères et sœurs, un chrétien, il compte les bienfaits de Dieu. Vous connaissez ce texte de l'apôtre qui dit, c'est une grande source de gain que la piété et le contentement. Une source de gain. Vous voulez gagner beaucoup? Est-ce que vous voulez gagner? Oui, mais Dieu veut. C'est une source de gain, une grande source de gain, que la piété et le contentement. Dieu nous demande de comprendre les épreuves. Il nous demande de comprendre les épreuves. Considérez, ça c'est important pour rester dans cet état d'esprit. Les diverses épreuves, vous connaissez la suite? Alors, qui c'est qui pourrait me dire la suite? Considérez les diverses épreuves comme un sujet de joie. Complète. Sachant que l'épreuve de votre foi, il faut que l'épreuve, ce soit l'épreuve de la foi, pas l'épreuve. Il faut que l'épreuve soit l'épreuve de la foi, afin que l'épreuve de la foi, plus près, non, ça c'est ailleurs, afin que l'épreuve de foi produise la patience, et que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Accompli. Accompli, ça veut dire que je remplis les conditions. Quelqu'un qui rend grâce, c'est quelqu'un qui petit à petit va remplir les conditions dans lesquelles Dieu veut qu'il soit pour faire l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous appeler à faire quelque chose au niveau corporatif, au niveau individuel? Mais ça commence par cet... On va le lire, parce qu'il y a beaucoup de regards qui m'interrogent. Regardez quand même, parce que c'est un texte, je ne sais pas si vous le connaissez, moi je l'ai appris par cœur, vous savez, parce que je sais que quand on apprend les choses par cœur, le Saint-Esprit nous les rappelle plus facilement. C'est écrit ou c'est pas écrit ça? Et un jour, j'ai appris ce texte. Moi, quand je veux apprendre un texte, je le lis tous les matins, pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Et après, je l'ai appris. Et j'ai compris pourquoi Dieu voulait que je l'apprenne. Ça m'a beaucoup servi. Jacques, chapitre 1er. Regardez, on va le relire. C'est l'état d'esprit, ça. Un chrétien qui veut arriver à vivre, rien n'est impossible à Dieu, il doit développer un état d'esprit. C'est imparable. C'est imparable. Sinon, nous tournerons en rond, nous passerons à côté. Et comme je vais l'expliquer samedi aux jeunes qui n'arrivent pas à se marier, qui ont besoin de faire une expérience avec Dieu, qui ont besoin de voir leur mariage béni. Le mariage, est-ce qu'il doit être béni? Mais bien sûr. Et je voudrais vous l'expliquer autant dimanche matin que samedi soir. D'une manière vraiment simple et pratique. Et ça commence par la compréhension des choses. Dieu parle, mes frères et sœurs. C'est dommage de voir un chrétien qui a 10 ans, 20 ans de conversion, qui n'a pas compris ce qu'on va lire. Il ne pourra jamais vivre, car rien n'est impossible à Dieu. Et le diable, il se frotte les mains. Jacques, chapitre 1, versets 2, 3 et 4. C'est pas long. Hein. Mes frères, alors vous comprenez bien que quand Dieu parle aux frères, il parle aussi aux sœurs. Regardez comme un sujet de joie complète. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut être maso? Dire, voilà, je suis dans l'épreuve, c'est génial. Bien sûr que non. Soyons intelligents. Ça ne veut pas dire que Dieu demande d'être maso. Ça veut dire que Dieu veut que nous développions un état d'esprit. Les diverses épreuves, dont dans tous les domaines, le travail, la famille, le couple, la santé, l'église, le monde spirituel, toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Sachant que l'épreuve de votre foi, l'épreuve, il faut qu'elle soit l'épreuve de la foi. C'est comme le combat. Si ce n'est pas le combat de la foi, c'est un mauvais combat. Si c'est le combat de la foi, c'est un bon combat. Une épreuve, elle sera bonne si c'est l'épreuve de la foi. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, l'épreuve de la foi? Elle produit, alors, la première étape. Est-ce que vous êtes patient? L'épreuve, normalement, si elle est traversée, elle produit la patience. Si vous êtes toujours impatient tout le temps, ouais, j'en ai marre d'attendre, vous n'êtes pas patient. Peut-être dans un domaine, eh bien, Seigneur, j'accepte l'épreuve. Je vous le dis parce que c'est vrai, parce que je l'ai vérifié chez moi souvent et chez d'autres. Une épreuve, quand elle est acceptée, elle est réglée à 80%. Et je sais que je ne me trompe pas. C'est comme ça. Il faut un impératif. Que la patience, parce que la patience, ça a un but aussi. Un garçon, par exemple, ou une jeune fille qui est toujours impatient, est-ce qu'il est prêt à se marier? Ben non, ça va clasher, c'est sûr. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Bon, même si c'est pas parfait, moins qu'il y ait de la patience pour être prêt à faire quelque chose. Un mariage, c'est une œuvre. Afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Alors, c'est pas pour rien que le verset 5 est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Parce que pour comprendre ces choses, il faut minimum de sagesse. Qu'il la donne à tous, simplement, et sans reproche. Parce que c'est vrai que nous, on a tendance à faire des reproches. C'est pas vrai? Oui, mais si t'en es là, ben mon pauvre, t'avais qu'à te tenir à carreau. Ce matin, j'ai lu 20 chapitres du livre de Job. C'est impressionnant comme c'est dur de comprendre les problèmes de quelqu'un, d'un ami. Franchement, le livre de Job, c'est écrit de façon poétique. Vous savez ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que quelqu'un arrive à le traduire d'une façon, mais vraiment français courant. Mais vraiment, français courant, je vous assure, c'est dur. Comment des amis peuvent être méchants lorsqu'ils ne comprennent pas l'épreuve que vous êtes en train de traverser. C'est impressionnant. Impressionnant. Demain, je lirai les autres 20 chapitres. Je sais que ça va soulever des questions, mais ça fait 22 chapitres qui restent. La sagesse, c'est pas facile d'avoir la sagesse. Mais Dieu la donne. Vous la demandez souvent? Tiens, c'est quand la dernière fois que vous l'avez demandé? Vous la demandez souvent? Moi, il y a un pasteur l'autre jour qui m'a dit dans une église où je prêchais, il m'a dit, mais moi, je me rends compte que je ne la demande jamais. Je dis, mais peut-être que vous en avez trop. Bon, il a ri un bon coup. Mais il m'a dit, c'est vrai qu'on passe à côté de certaines choses. Que l'on passe à côté de certaines choses. Donc, il ne faut pas sauter de joie. Ça ne veut pas dire qu'il faut sauter de joie. Ça veut dire que Dieu sait ce qu'il fait. les épreuves. C'est ça que ça veut dire. Dieu ne se moque pas de ses enfants. Dieu ne joue pas avec ses enfants. Dieu ne joue pas avec nos nerfs. Dieu y règne au siècle des siècles. C'est pour ça que Dieu dit, réjouissez-vous, regardez comme un sujet de joie complet, toutes les épreuves, qu'est-ce que je vais apprendre? Bon, sur le coup, on a mal, on a un peu la boule à l'estomac. Hein, comment vous réagissez-vous quand vous êtes contrarié? Vous râlez 5 minutes? Comment vous faites? À Toulouse, il y a un mot qui dit en roumègue. Hein, si vous venez d'ailleurs, c'est un mot. Dans le journal local, il y a longtemps en arrière, il y avait un article qui s'appelait le roumégaire, en patois, celui qui roumègue toujours. Mais il n'y en a pas que dans la dépêche. Il y en a même dans les églises des roumégaires. Et je crois qu'il faut que nous apprenions à développer un esprit sérieux de reconnaissance. Regardez, on va prendre quelques versets que vous connaissez certainement. Dans Lamentation de Jérémie, il y a un verset. C'est important ces versets. Je voudrais que vous les méditiez jusqu'à ce que vous les ayez gravés. Vous savez, la prédication, c'est ou un burin sur la pierre, ou une craie sur un tableau noir. C'est exactement pareil. Une prédication, c'est au début, ce soir, si vous écoutez pour la première fois, c'est comme un crayon, une craie sur le tableau. Si vous le méditez pendant des mois, eh bien, ça sera gravé. Ça fait que quand le Saint-Esprit voudra vous parler, clac, il vous rappellera Jacques 1. Clac, il vous rappellera Matthieu 6. Clac, il vous rappellera Luc 1, 37. Clac, il vous rappellera Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. C'est une question. Vous avez remarqué que dans la Bible, il y a beaucoup de questions. Dans le livre de Job, il y en a 292 questions. Pour vous dire qu'on est compliqué. 292. Question, Lamentation de Jérémie 3, 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Tiens. Qu'est-ce que vous dites, vous? Parce que si la question est posée, ça veut dire, mais et vous, qu'est-ce que vous dites? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté de Dieu, du Très-Haut, que viennent les maux et les biens? Et regardez, une autre question. Ça nous remet d'équerre, là. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. D'un côté, la souveraineté de Dieu. Regardez bien. D'un côté, une question. Qu'est-ce que vous dites de la souveraineté de Dieu? Et qu'est-ce que nous faisons de nos péchés, de nos plaintes? C'est exactement ça. Parce que si vous ne croyez pas ça, ça va être difficile pour que les gens qui nous rejoignent comprennent que nous sommes des chrétiens. Dieu règne. Il règne toujours sur tout. Pas un oiseau ne tombe sans qu'il ne le veuille. Les cheveux de notre tête sont tous comptés. Ce sont des paroles que Jésus a voulu transcrire dans ses saintes écritures pour que nous comprenions qu'il règne, qu'il ne subit rien. Moi, j'ai lu des ouvrages ou des prédicateurs expliquaient que Dieu passait son temps à contrôler les choses qui... Non, 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 Dieu ne contrôle, Dieu passe pas son temps à subir les choses. Dieu règne. Il règne au siècle des siècles. Il sait ce qu'il fait. Mais si nous avions à nous plaindre, on l'a lu, que chacun se plaigne des péchés des autres. Non? Vous êtes sûr? Ah oui. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Dans une église, c'est vrai qu'il faut s'occuper. S'il y a des gens qui vivent dans le péché, la Bible dit ôtez les gens qui sont dans le péché. Ceux du dehors, Dieu les juge. Mais après, dans un cadre général, nous devons nous occuper de nos péchés. C'est pour cela qu'il nous faut être dans un bon état d'esprit, parce que si on n'est pas dans un bon état d'esprit, on ne saura même pas dans quel péché on est. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça peut arriver qu'on ne sache même pas dans quel péché on est? Eh bien, bien sûr! Celui qui ne sait pas ces choses est aveugle. Celui qui n'aime pas son frère, on l'a entendu tout à l'heure dans le don spirituel, celui qui n'aime pas son frère, c'est un aveugle. Seigneur, mais si j'ai du mal à aimer, c'était pour moi la prophétie. Je suis tout le temps en train de râler, de juger. C'était pour moi. Je vais le régler, ça. Je vais le régler. Sérieusement, je vais le régler. Et Dieu va vous aider. Parce que Dieu est là pour nous aider. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Parce que Dieu ne règne pas sur nos péchés. C'est pour ça que c'est écrit. Dieu règne sur tout. Il règne au siècle des siècles, il règne sur l'univers entier, mais il ne règne pas sur nos péchés. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'il faut s'appliquer. Il faut vraiment s'appliquer. À comprendre, tiens, mais cette épreuve, ça peut être une épreuve. Vous savez, les épreuves, il y a diverses épreuves. C'est pas pour rien que Dieu nous demande d'avoir le don de discernement. Parce qu'une épreuve, Dieu... Vous voyez, Job, l'épreuve, c'était un homme intègre et droit, il craignait Dieu. Dieu a permis l'épreuve. Le gars qui était à la piscine de Bethesda, qui était malade depuis 38 ans, c'était à cause du péché. Puisque Jésus lui a dit, quand il l'a rencontré dans le temple, ne pêche pas, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Donc on voit bien que là, c'était une maladie qui était liée à son péché depuis 38 ans. Job, c'était pas lié au péché. Au contraire, il est intègre. Mes frères et sœurs, c'est bien d'avoir le don du discernement. Vraiment, c'est bien de le demander. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Que direz-vous? Eh bien oui, moi je dirais que je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec ce qui est écrit au fait? Parce que la façon dont certains chrétiens parlent prouve qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec cette affaire que Dieu dit. Le Seigneur ne le voit-il pas? Alors, mes frères, un autre texte que nous allons lire, c'est important de comprendre ces choses. Vous savez, je pense à Abraham. Vous rappelez Abraham? Dieu l'a éprouvé. Vous êtes d'accord? Vous rappelez, Dieu l'a éprouvé. Il l'a éprouvé, il l'a vraiment éprouvé. Et quand il va offrir son fils en sacrifice, son fils, à un moment donné, sur le chemin, ça a duré 3 jours le chemin, son fils lui dit, mais papa, il y a le bois, et il y a le feu, mais il est où le sacrifice? Est-ce que vous avez, ceux qui ont des enfants peuvent comprendre quand même. Qu'est-ce qu'il a répondu à Abraham? Dieu se pourvoira. Vous voyez, est-ce qu'il aurait pu lui dire, eh bien c'est toi. Je dis ça avec humour parce que des fois on n'est pas aidé vraiment. C'est pas vrai que des fois on n'est pas fait. Dieu se pourvoira. Est-ce que dans l'épreuve que vous traversez, mais vous savez, il faut voir les choses d'une manière intelligente. Est-ce que dans l'épreuve, ce soir, parce que soyons pratiques, je suis, le vent est en face, dans la côte, ça ne me plaît pas beaucoup, c'est normal, jouons pas les costauds. Est-ce que je peux dire, Seigneur, tu m'éprouves, mais sérieusement, parce que rien ne t'est impossible, tu pourvoiras. Parce que je suis en train d'obéir. Qu'est-ce qu'il était en train de faire, Abraham? Il était en train d'obéir. Parce qu'attention, c'est ça le règne. Dieu règne, bien sûr, si j'obéis. Parce que si je suis dans le péché, eh bien, je dois me plaindre de mes péchés. Abraham était en train d'obéir et il pouvait dire avec assurance, eh bien, mon fils, Dieu pourvoira. Joseph était en prison, il était vraiment dans la difficulté. Et qu'est-ce qu'il a dit? Les chansons au panetier, c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Il était en prison parce qu'il avait refusé de coucher avec une femme. Il était en prison parce qu'il était juste et droit et honnête. Eh bien, il savait que Dieu, lui aussi, pourvoirait. Ça a pris un peu plus de temps, mais ça fait rien. C'est beau la confiance, mes frères et sœurs. C'est important, mes frères et sœurs. On va lire un texte. Parce que c'est quand même important. Ésaïe. Dans Ésaïe 37, il y en a dans Ésaïe. Ils sont sous-entendus souvent, mais il y en a beaucoup. Dans Ésaïe 37, verset 26, mes frères et sœurs, développons cet état d'esprit. Il faudrait qu'on rentre chez nous. Vous savez ce qu'il faudrait faire? Il faudrait prendre les portables, les tablettes, les ordinateurs et mettre tout ça dans des conteneurs. Voilà. Ou dans la Garonne. Je le pense vraiment. Pour certains, je le pense vraiment. Le temps que certains passent devant leur tablette, s'ils le passaient à genoux devant Dieu, je crois que certains vérifieraient tout ça. Ésaïe 37, verset 26. C'est des questions, vous avez vu, c'est des questions. Les questions, c'est bien dans la Bible. Vous avez remarqué, je ne sais pas comment vous faites avec les questions. Moi, ça, les questions, ça m'arrête. Parce que je sais que c'est Dieu qui les pose. N'as-tu pas appris? Tiens, rien que ça déjà. N'as-tu pas appris? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des choses et puis il faut qu'on les enseigne. Vous pouvez dire, oui, moi j'ai pas besoin qu'on m'enseigne. C'est pas vrai. Il faut les apprendre. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui apprend, comme on est en train de le faire. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Que je les ai résolues de les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Voyez? N'as-tu pas appris? Voyez bien que Dieu subit pas les événements. Il les commande. Ésaïe 22. C'est un verset que j'ai souvent pris d'ailleurs, parce que, Parce qu'il est, il est simple ce verset, très simple. Ils sont en vrac, eux ils demandent de la joie, alors qu'ils devraient se repentir. Vous voyez, c'est ça le problème. Eux ils veulent de la joie. Et Dieu leur dit, mais non, vous ne comprenez pas. Enfin, vous lisez le contexte, ce serait trop long à expliquer. Ésaïe 22, verset 11. Regardez bien mes frères et sœurs, ces versets, moi je vous encourage à les méditer. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang, mais, vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Nous, on voit les choses. On voit les choses qui nous barrent le chemin. Ça m'énerve. Ça me barre le chemin. Dieu nous dit, ne regardez pas les choses. Regardez celui qui règne sur les choses. Vous le voyez comme moi ? Vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Et le mauvais chrétien, parce que bon, il faut quand même des fois en parler, il voit les choses, il s'irrite, il s'affâche, ça me barre le chemin, ça m'empêche de m'épanouir. Mais non, mais vous croyez que Dieu s'amuse ? Mais comme on l'a lu tout à l'heure, si vraiment nous nous appliquions avec ferveur, je vais chercher l'Éternel. Je vais te chercher à toi. Cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. J'ai fait une expérience, vraiment une belle expérience. Matérielle. Vous voyez, en plus c'est matériel. Est-ce que c'était utile que je la fasse ? C'était matériel. Est-ce que c'était... Dieu n'était pas obligé. Mais comme on sait que Dieu est tout puissant, c'est pas de l'égoïsme. On pourrait dire, mais non, le plus important, ce serait que Dieu s'occupe des chrétiens en Corée du Nord qui sont en prison. Si les chrétiens en Corée du Nord m'avaient vu demander ce que j'ai demandé, ils auraient pu dire, mais qu'est-ce que c'est ce pasteur ? Mais qu'est-ce que c'est ce pasteur ? Mais moi, je l'ai demandé, je pense aux chrétiens en Corée du Nord. Mais je sais que je peux demander certaines choses. Pourquoi ? Parce que Dieu est tout puissant. Il peut tout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est important parce qu'il y a des gens qui sont envoyés dans une espèce de lamentation. Non, moi je ne vais pas demander ça, il y a tellement de gens qui ont des besoins. Mais bien sûr, mais priez pour tous les gens qui ont des besoins. Et priez sans cesse pour les milliers de gens qui sont dans le besoin. Mais ça n'empêche pas Dieu de vous bénir matériellement. Pourquoi ? Parce qu'il est tout puissant. Mais c'est ça la définition du mot tout-puissant, ça veut dire qu'il peut tout. Bien sûr que je vais prier pour monsieur un tel qui est malade, pour telle personne qui est dans le deuil, et pour tel chrétien persécuté, etc., etc. Mais mes frères et sœurs, moi je peux vous dire que je ne suis pas du tout gêné quand je demande quelque chose de matériel, parce que je sais que Dieu peut me l'accorder. C'est écrit. Le mauvais chrétien, il voit les choses. Et pour terminer, parce que je ne voudrais pas être long, dans le prophète Amos, regardez avec moi. Dans le prophète Amos, il y a une dimension supplémentaire par rapport aux épreuves. C'est important. Job l'a expérimenté. Il a mis du temps, ça a mis des mois sûrement. Ça ne veut pas forcément dire que ça sera dans l'épreuve, mais après, ou à un moment donné, ça viendra. Regardez bien, encore une fois avec des questions, Amos chapitre 3, verset 6, il y a deux questions. Il faut s'arrêter sur les questions. Vous savez, c'est quand Dieu pose une question, je l'ai souvent dit, mais c'est intelligent, vous le comprenez bien. Dieu pose pas des questions pour poser des questions. Ce serait nous, on pose des questions pour rien. Nous, on parle pour rien. Souvent, soyons honnêtes. Mais Dieu parle toujours pour quelque chose. Amos 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Regardez bien la suite maintenant. Vous voyez, il y a des questions, et puis il y a une bénédiction par rapport à la communion avec Dieu. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on accepte l'épreuve, qu'on comprend l'épreuve, qu'on comprend que Dieu peut permettre une situation, un malheur, une difficulté, toutes les épreuves, les diverses épreuves. Il dit, mais arrive-t-il un malheur comme ça sans que le Seigneur ne règne pas ? Mais qu'est-ce que Dieu faisait ? Mais qu'est-ce que je faisais le 11 septembre ? Moi, si vous savez tout ce que j'ai entendu, par exemple, sur le 11 septembre ou sur le 21 septembre à Toulouse, Mais vraiment des stupidités. Ça prouve bien que les gens ne connaissent pas Dieu. J'avais prêché ce verset, la prédication, juste avant le 21 septembre, sur ce verset. C'est pour ça que j'y repasse. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Le Seigneur ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mes frères et sœurs, pendant l'épreuve, Dieu peut ne pas parler comme Job. Mais après l'épreuve, Dieu va se révéler. D'ailleurs, il va lui poser 72 questions à Job. 72 questions. Je ne sais pas comment vous réagissez quand Dieu pose des questions ce soir, que vous le vouliez ou non, par le biais de cette prédication, une dizaine de questions vous ont été posées. Vous auriez peut-être dû les noter, dire, tiens, mais je vais me tenir devant toi et je vais être honnête, parce que la prédication, ce n'est pas juste un beau message qui correspond ou pas, ce n'est pas un message de plus ou de moins. Je vais noter ces questions, je vais me tenir à genoux devant toi et je vais faire ce que tu veux que je fasse, je vais être d'une totale honnêteté. Parce que ce texte nous montre que Dieu veut que l'on comprenne qu'il règne sur tout et qu'il révèle ses secrets à ses serviteurs. C'est-à-dire, ceux qui cherchent la communion, c'est ça que ça veut dire. Dieu révèle ses secrets. Il y a des gens qui disent, Dieu ne me parle jamais. Mais bien sûr, il ne cherche pas la communion. Soyons sérieux. Dieu se révèle à ceux qui cherchent la communion. Et regardez comment Dieu va se révéler à Job. C'est extraordinaire, les derniers chapitres. C'est extraordinaire. Et pourtant, il connaissait Dieu. Il craignait Dieu. Et pourtant, Job va dire, mais j'avais entendu parler de toi, maintenant, mon œil t'a vu. Pourtant, je peux vous dire qu'il le connaissait. Mais la révélation, elle est progressive. Vous avez envie de connaître Dieu davantage? Franchement, Job connaissait Dieu. Dieu a dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. Franchement, s'il y en avait un qui connaissait Dieu, en tous les cas, à l'époque, c'était bien lui. Et pourtant, il va dire, après des mois d'épreuves, oh, mais j'avais entendu parler de toi. Mais je t'ai vu. J'ai parlé sans comprendre des merveilles qui me dépassent. Et pourtant, Dieu va lui parler de l'autruche, de la girafe, de la biche. Et il va comprendre que Dieu règne. Est-ce que vous croyez que Dieu règne? Comment allons-nous rentrer ce soir dans notre maison? Seigneur, je crois que tu règnes vraiment. Je veux que tu règnes. Il faut que je reprenne toutes ces questions. Vous savez, des fois, on rentre à la maison, allez, claque de suite, paf, c'est dingue, ça. Les gens, allez, hop, la télé, machin, clic, clac. Je vais rentrer chez moi. Je vais te chercher. Chercher l'Éternel. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est toi que je vais chercher. Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs et ses servantes. À ceux qui aspirent à la communion. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait faire ce qu'on a dit tout à l'heure? On fait une prière. Et puis après, tiens, on va commencer à rendre grâce pour un pour l'autre. Est-ce qu'après, on va se lever et vous priez pour la personne qui est à côté de vous? Déjà, je veux bénir mon frère. Je veux bénir ma sœur. Je veux bénir l'église. Je veux bénir ce pays. Je veux bénir tous les hommes, mes ennemis. Est-ce que c'est écrit « Bénissez ceux qui vous maudissent » ? Notre Père, notre Dieu, nos yeux sont sur toi. Oui, nous croyons que c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la force, la sagesse. Oui, Seigneur, merci de nous rappeler que rien ne t'est impossible, que même un homme qui est dans la détresse, qui te cherche, eh bien, tu le secours. Seigneur, pardon pour tous ceux qui sont tombés dans l'apitoiement, dans le murmure, dans la plainte et qui ne s'en rendent même plus compte. Éclaire ce soir, Seigneur. Délivre par ta parole. Oui, Seigneur, si on doit se plaindre, que les hommes et les femmes se plaignent de leurs péchés uniquement et pas de ceux des autres. Seigneur, nous bénissons cette église, nous bénissons ce pays, nous bénissons le président, le premier ministre, nous bénissons les gens que nous côtoyons, nos voisins, les frères, les sœurs et même nos ennemis, nous les bénissons, Seigneur Jésus, parce que nous voulons faire ce que tu nous demandes. Oui, tu règnes, oui, tu sais ce que tu fais. Dans toutes les situations, même un oiseau ne tombe pas sans que tu ne le veuilles. Nous le croyons, Seigneur. Que ton nom soit béni.